Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation consacrée à la poésie. Lors du premier volet d'une émission consacrée à Hölderlin, deux éditions avaient été exploitées, celle de la Pléiade et celle bilingue de la traductrice Geneviève Bianchis. Tout récemment, ce sont les éditions Alia, qui publient généralement de courtes plaquettes de Rilke, de Lorca, de Blake et de quelques autres, les éditions Alia donc, qui offrent quelques-uns des plus beaux poèmes de Hölderlin, dans une traduction de Gustave Roux, qui reprend la version française qu'il avait déjà donnée en 1942 chez l'éditeur lausannois Mermot. Poète et photographe suisse roman, Roux collaborera ensuite à l'édition de la Pléiade déjà citée. Que des poètes Roux, Jacotet, Jouve se soient attelés à traduire Hölderlin est riche de sens. Gustave Roux lui-même n'affirme-t-il pas, je le cite, « Un traducteur ne peut choisir qu'entre le calque et le reflet, le trait mort ou l'image brouillée. Nous avons choisi l'image et tout notre désir serait qu'un ou deux lecteurs puissent deviner, au-delà de ce lacis de lignes confuses qui l'offusquent, le visage du poète au temps des hymnes, au point le plus haut, le plus pur de sa destinée et déjà le plus menacé, n'ayant plus à leur tour qu'un seul désir, celui d'entendre Hölderlin, sa voix même, et non plus ce fugace écho qui les guida vers lui. » C'est donc cette voix d'Hölderlin qu'il faut donner à entendre, fût-ce avec et à travers l'imperfection de sa traduction française. Remarquons tout d'abord que le volume des éditions Alia offre aussi un émouvant fragment d'une lettre du menuisier Zimmer adressée à la mère du poète. On avait indiqué précédemment que le menuisier Zimmer veillera sur les dernières années de la vie du poète, de 1807 à 1843, contraint, exception faite des promenades, de demeurer en repos dans la chambre d'une tour au-dessus du fleuve Neckar. Voici donc l'extrait de la lettre du menuisier Zimmer à la mère de Hölderlin. Son esprit poétique se montre toujours actif. Ainsi, il a vu chez moi le dessin d'un temple. Il m'a dit que je devrais en faire un comme cela en bois, à quoi j'ai répliqué qu'il me fallait travailler pour gagner mon pain, que je n'étais pas assez heureux pour pouvoir vivre comme lui dans le repos philosophique. Il m'a répondu aussitôt « Hélas, je suis pourtant un pauvre homme !» Et dans la minute même, il a écrit pour moi les vers suivants au crayon sur une planche. Les lignes de la vie sont diverses, comme les routes et les contours des montagnes. Ce que nous sommes ici, un Dieu, là-bas, peut le parfaire avec des harmonies et l'éternelle récompense et le repos. Pour mieux saisir le lien complexe entre ce que l'on nomme abruptement la folie Hölderlin et l'écriture qui se poursuit par éclairs, on peut citer la note qui explicite les poèmes consacrés à chacune des quatre saisons. Voici cette note, donc toujours dans l'édition de Gustave Roux. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, suite de quatrains rimés, sont choisis dans ce groupe des poèmes de commande, si l'on peut dire, tels que les composait Hölderlin, prié par ses visiteurs de quelques vers, et signé souvent, car il avait définitivement renié son nom, Scardanelli avec une date imaginaire. À ma dernière visite, raconte le poète Fischer, je lui demandais « Monsieur le bibliothécaire, je serais bien heureux si, à l'occasion de mon départ, vous vouliez bien me faire don de quelques strophes en souvenir. » La réponse fut « Comme votre sainteté l'ordonne. Dois-je écrire sur la Grèce, le printemps, l'esprit du temps ?» Mes amis me soufflèrent « Esprit du temps !» Ce que je demandais. Alors cet homme qui se tenait presque toujours courbé s'installa bien droit à son pupitre, prit une feuille de papier et une plume d'oie avec toutes ses barbes et se mit en devoir d'écrire. De ma vie, je n'oublierai cet instant où ses traits s'illuminèrent, où brillèrent son front et ses yeux, comme si jamais un douloureux égarement n'y eût régné. Et alors il commença d'écrire, scandant chaque vers de la main gauche et tirant du fond de sa poitrine un « satisfait » à la fin de chacun. Le poème terminé, il me tendit le feuillet avec une profonde révérence et dit « Votre sainteté daigne-t-elle ? » Et c'est avec pudeur que l'édition de Gustave Roux regroupe ce qu'il nomme « Quelques poèmes des temps obscurs ». Sans respecter l'ordre chronologique de composition, de toute façon difficile à établir, lisons deux des quatre saisons. Tout d'abord, l'été. La saison s'offre encore au regard. Les campagnes d'été sont là dans leur éclat, dans leur douceur. Le vert des prés au loin s'étale avec splendeur partout où le ruisseau précipite ses vagues. Ainsi s'en va le jour par les monts, les vallées avec sa force irrésistible, rayonnante. Des nuages voguent en paix très haut. L'année s'attarde, comme prise à sa magnificence. Et puis le poème intitulé « L'hiver », dont il existe d'ailleurs plusieurs versions. Lorsque la blanche neige embellit les prairies, qu'une haute clarté luit sur les vastes plaines, l'été lointain nous charme et doucement le printemps vient à nous, tandis que l'heure fuit. Le spectacle est magnifique, l'air est meilleur, le bois est clair et nul homme ne passe aux chemins qui sont trop écartés. Le silence fait naître la majesté. Pourtant, tout garde un air riant. Le printemps n'est pas là pour enchanter les hommes avec l'éclat des fleurs, mais les étoiles sont claires dans le ciel. On regarde avec joie le ciel au loin qui ne change presque jamais. Les fleuves sont pareils aux plaines. Les images sont, quoique éparses, plus distinctes. La douceur de la vie se prolonge et la grandeur des villes ressort très nettement sur l'immense étendue. Et voici la version en allemand.
Wenn bleicher Schnee verschönert die Gefilde und hoher Glanz auf weiter Ebene blinkt, so reizt der Sommer fern und milde naht sich der Frühling oft, indes die Stunde sinkt. Die prächtige Erscheinung ist, die Luft ist feiner. Der Wald ist hell, es geht der Menschen keiner, auf Straßen, die zu sehr entlegen sind. Die Stille machet Erhabenheit. Wie dennoch alles lachet. Der Frühling scheint nicht, mit der Blütenschimmer dem Menschen so gefallend. Aber Sterne sind an dem Himmel hell. Man sieht gerne den Himmel fern. Der ändert sich fast nimmer. Die Ströme sind wie Ebenen, die Gebilde sind auch zerstreut, erscheinender. Die Milde des Lebens dauert fort, der Städte Breite erscheint besonders gut auf ungemessener Weite.
On peut souligner le fait que les strophes employées sont dites alcaïques en référence à Alcée de Mytilène, un contemporain de la poétesse Sappho. Sans entrer dans le détail, cela marque l'extrême souci rythmique auquel se prête Hölderlin et le lien privilégié qu'il entretient avec la Grèce et l'un de ses modèles lyriques essentiels, le poète Pindare. Il a aussi été question, lors de la première émission consacrée à Hölderlin, de Diotima, alias Suzette Gontard, qui a fait naître une si grande passion chez Hölderlin. Dans l'édition de Gustave Roux, deux poèmes se rattachent à la douloureuse séparation qui s'imposa aux deux amants avant même la mort de Diotima en 1802. Je lirai donc d'abord un poème intitulé « Implorer »,« Pardon implorer », et un second poème qui commence par le vers, le fragment de vers « Si de très loin ». Le second poème, j'y insiste, est en strophe alcaïque lui aussi. Il est inachevé, comme interrompu par une mort soudaine, et il présente aussi une vraie singularité du point de vue de points de vue, puisque c'est la voix de Diotima qui s'exprime. Le poème s'interrompra étrangement à l'instant même où Diotima va révéler à son amant quelques secrets de l'au-delà qui devaient, sans nul doute, être tus. Tout d'abord, un court poème donc intitulé « Pardon imploré ». Être sacré. Souvent, j'ai porté trouble dans ta divine paix d'or. Et parmi les plus profondes, les plus mystérieuses de la vie, tu as appris de moi maintes douleurs. Oh, consens à l'oubli, pardonne-moi, pareil à ce nuage, là-bas. Devant la calme lune, je m'éloigne et tu brilles dans ta beauté réapparue. Ô lumière, ô douceur, et dans ta paix. Et le second poème, inachevé, je l'ai dit, qui commence par « Si de très loin ». Si de très loin, puisque nous sommes séparés, tu me connais encore. Si les heures enfuies, ô toi qui pris ta part de mes souffrances, peuvent te rappeler quelque bonheur, parle, dis-moi comment, où t'attend ton ami. Dans ces jardins là-bas, où nous nous rencontrâmes après ce temps de nuit et d'épouvante. Ici, au bord des fleuves, du saint monde originel. Je dois le dire, il y avait quelque bonheur dans tes regards. Quand, au loin, une fois encore, tu tournas si joyeusement la tête, oh, toujours taciturne avec cet air si triste. Ainsi, fuir les heures. Oh, sereine certitude en mon âme de cet amour que j'ai pu vivre si durement séparé. Oui, j'en faisais l'aveu, oui, j'étais tienne. En vérité, tu voudrais peupler ma mémoire de tout notre commun trésor et l'y graver message par message, et moi, le même désir me vient de dire aussi tout le passé. Était-ce le printemps, l'été ? Le rossignol au chant si doux vivait dans les bocages tout près de nous avec tous les autres oiseaux, et les arbres nous baignaient de leur baume. Les pâles sentiers, les arbrisseaux nains, le sable où posait notre pas rendait plus attirante, plus adorable l'hyacinthe ou la tulipe, la violette, l'œillet. Le lierre verdoyait au mur et l'ombre heureuse était verte elle aussi dans les hautes allées, et souvent le matin, le soir, nous étions là, échangeant maints regards joyeux, maintes paroles. L'adolescent reprenait vie entre mes bras, l'abandonné venu des vastes plaines, qu'il me montrait d'un lent geste sans joie, mais il savait encore le nom des lieux illustres, et, si cher à mon cœur, toute cette beauté, aux rivages heureux de sa terre natale, épanouie, et cet autre qui se dérobe et qu'on découvre de très haut, de tous ces lieux d'où l'on peut contempler la mer, où nul ne vit. Sache te résigner, et songe à celle qui se sent heureuse encore, à cause du jour délicieux qui se leva pour nous, qui commença par des aveux, des mains pressées, qui nous unit. Hélas, ô malheureuse, ce furent de beaux jours, mais derrière eux s'en venait un lugubre crépuscule. Tu es si seule, au cœur de la beauté du monde, m'assures-tu sans cesse, ô bien-aimée. Mais ce que tu ignores, à présent d'autres poèmes qui datent des années de ce qu'on a coutume d'appeler la folie Hölderlin. Tout d'abord, un poème intitulé « Patrie » et qui précisément est, pour ainsi dire, interrompu, comme haché par des manques que je marquerai par des silences. et nul ne sait. Laisse-moi cependant que j'erre et cueille des baies sauvages, afin qu'au long de tes sentiers s'apaise, ô terre, cet amour que j'ai pour toi. Ici, au lieu où... Et des roses avec leurs épines, et des tilleuls doucement donnent leur parfum près des hêtres à midi, quand dans la houle des froments fauves crépite la croissance aux tiges dressées, et les épis courbent la nuque, pareils au lourd automne, mais maintenant sous la voûte immense des chênes, tandis que je médite, interrogeant le ciel, un tintement familier de cloches au loin résonne en écho d'or autour de l'heure où l'oiseau reprend veille. Et tout va bien ainsi. Un autre poème intitulé « Quand la sève ». Quand la sève du cep, le doux cru, quête l'ombre, et que sous le feuillage en fraîche voûte grossit la grappe, un don de force aux hommes, mais pour les jeunes filles un parfum, et pour les abeilles, quand, tout ivre des baumes printaniers, l'esprit du soleil les émeut, vers lui, elle s'essore, dispersée, mais qu'un rayon brûle, et les voici bourdonnantes, sans revenir et de pressentiments chargés. Là-haut, le bruissement du chêne. Je vais lire un dernier poème intitulé « Le cimetière ». Ô lieu paisible où verdit la jeune herbe, là gisent hommes et femmes et se dressent des croix, où des amis s'en vont qu'on accompagne, où des fenêtres font briller leurs carreaux clairs. Quand du ciel de midi luit la haute lumière sur toi, quand le printemps s'y attarde à plaisir, quand le nuage esprit là-bas gris et humide, quand le jour doucement passe dans sa beauté. Oh, quel silence au long de la grise muraille, par-dessus quoi se penche un arbre avec des fruits, des noirs pleins de rosée, et son feuillage est lourd de deuil. mais les fruits sont si joliment pressés. Dans l'église, là-bas, règne une paix obscure, et l'autel, dans la nuit, semble aussi sans éclat. Il y a là-dedans encore de belles choses, mais au chant de l'été, chante mainte cigale. Si l'on écoute les paroles du curé, là-bas, près des amis en groupe qui l'entourent, tous les amis du mort, quelle vie singulière et quel esprit, quelle sereine piété. Au cours de cette émission, j'ai voulu mettre à l'honneur le compositeur polonais Wojciech Kilar, mort en 2013. Vous avez pu entendre dans l'ordre d'abord un extrait intitulé Cypresses, les cyprès, puis un extrait intitulé The Kiss, le baiser, tiré de Portrait of a Lady, le film de Jane Campion, et enfin, vous avez pu entendre les Twilight Cellos, le violoncelle du crépuscule. Et enfin, était insérée aussi une transcription en allemand du récitant Christian Rainer, qui a lu donc en allemand le poème intitulé « Der Winter », l'hiver. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.